19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beur FM.
Oui, tu verras, c'est pas problème.
Générique. Bonsoir, ravi, on s'installe, on prend le temps évidemment d'emprunter le micro. Merci d'être avec nous, c'est parti, vous le savez, pour un tout nouveau numéro des informés, les informés quotidiennement. C'est votre magazine, votre émission d'actualité politique pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Vous le savez, jusqu'à 20h, nous sommes ensemble. Ensemble, et bien tout simplement, au menu, je vous ai préparé ce soir pour vous accompagner, et bien tout simplement, plusieurs sujets. Oui, ça va être costaud. D'abord, nous reviendrons sur ce sujet d'actualité. Déclaration de Macron. Emmanuel Macron, le chef de l'État. Ce massacre est impardonnable. Emmanuel Macron reconnaît la fusillade de la rue d'Isly à Alger. On va en parler. On va en parler parce que c'était un discours qui était attendu, qui était évidemment... Donc, je demanderai à nos amis débatteurs comment l'ont-ils vécu et quelle interprétation doit-on avoir sur ce devoir de mémoire. Parce que, attention, chers amis auditeurs, c'est un nouvel acte mémoriel par le chef de l'État. Et c'est la vérité, c'est vrai. C'est vrai. C'est, me semble-t-il, un des rares présidents à se jeter comme ça. Bon, de bon, toute façon, on est là et on va le commenter. Ensuite, nous irons... Ah, les amis auditeurs, j'ose même pas tellement, vous savez, c'est compliqué à dire. Un sondage a été réalisé, là, récemment, c'était il y a quelques semaines. Alors, attachez-vous bien. 61% des Français, hein, j'ai pas le chiffre précis, mais estiment que les immigrés sont trop nombreux et qu'ils coûtent beaucoup trop cher que ce qu'ils ne rapportent. Eh bien, nous allons vérifier, les amis. Et on va vous apporter, nous, évidemment, notre regard. Ensuite, autre sondage, 53% des Français estiment que la France est avant tout un peuple de race blanche et de religion chrétienne. Et attachez-vous bien, les amis, 64% jugent que l'islam est une menace pour l'identité de la France. Zemmour, ça te fait plaisir quand je dis ça, n'est-ce pas? Voilà, merci la clochette. Allez, c'est parti, 19h, Maître Fabrice Divisio et son billet incisif. Attachez-vous, empruntez bien la chose puisque ça va être du lourd tout à l'heure. Ensuite, 19h30 avec un autre quoi de neuf, c'est celui du docteur Majid Sioussine qui viendra nous livrer évidemment son regard sur l'actualité. Mais attention, surtout vous, au 01 53 48 3000, et bien vous venez à n'importe quel moment, ici même, vous venez et vous venez commenter avec nous et partager votre regard sur l'actualité. Allez, c'est parti, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et pour démarrer cette émission, tout de suite, le quoi de neuf comme chaque mercredi avec Maître Divisio.
Les informés, le quoi de neuf.
Bonsoir Maître Fabrice Divisio.
Bonsoir Adil.
Comment ça va? Vous êtes en forme? Je veux m'assurer d'abord si vous êtes en forme.
Ça va mieux, forcément.
Bon, ça va mieux, ça me fait plaisir en tout cas, ça me fait plaisir. Maître Divisio, comme chaque mercredi 19h, eh bien, je vous ouvre la porte pour votre billet d'humeur, on vous écoute.
Alors mon cher Adil, depuis lundi dernier, un peu plus de 7 millions de personnes ont été radiées de la surface de la vie sociale, sauf pour eux à se faire vacciner. Se faire vacciner pour prendre le train, pour faire du sport, se faire vacciner en somme pour exister socialement. C'est sanitaire mon cher Adil, vous le savez bien. C'est sanitaire car le but est de protéger l'hôpital, de protéger notre système de santé. La liberté a des limites et la protection de l'hôpital en est une traîne très claire. Ce n'est pas à la majorité responsable de subir les égoïsmes de la minorité irresponsable. C'est un joli slogan de campagne quand on y pense. Et à l'heure des élections présidentielles, on pourrait, à souhait, en faire un mime. Et ce, d'autant que les meetings politiques, eux, sont dispensés de passe. Mais il y a quand même un truc que je piche pas, mon cher Adil.
Oui.
On empêche une minorité de vivre pour protéger l'hôpital. Mais l'hôpital, c'est pas lui qui est censé nous protéger. C'est pas ça sa vocation première.
Ouais.
C'est un peu comme si tu disais, écoute, ça
fait
les allumettes,
parce
que ça fait feu, et du coup, il faut protéger les systèmes d'incendie et de secours, ok? Drôle d'époque, vraiment. Oui, mais non, mon cher maître, pourriez-vous me répondre. Ce n'est pas à la minorité de faire payer à l'hôpital le prix de ses propres choix.
Oui.
Oui, mais la minorité, elle n'est pas censée être minoritaire. Du coup, si je comprends bien, il faut protéger l'hôpital d'un petit nombre de personnes. Ben oui. Ah ouais, elles sont vraiment très très dangereuses alors. Mais ôtez-moi d'un doute. Un système de santé n'est pas généralement proportionné à la taille du pays, au nombre de ses habitants.
C'était
avant. Avant, c'était l'État qui s'adaptait aux populations. Après, c'est les gens qui s'adaptent à l'État et à ses choix budgétaires. Mais laissons cela un instant. Les non-vaccinés sont des irresponsables qui saturent l'hôpital. Mais alors, mon cher Adil, pourquoi le Danemark, l'Angleterre, l'Espagne et bientôt les USA réouvrent tout ? Les non-vaccinés sont minoritaires, mais pourtant nous avons dépensé sur les deniers publics 1,5 milliard de tests en janvier, remboursés par l'assurance maladie, c'est-à-dire concentrés sur les seules personnes vaccinées, puisque les minoritaires paient leurs tests.
C'est ça.
En somme, mon cher Adil, on se fout de nous.
Non.
Et c'est pas parti pour s'arrêter demain.
Ah,
nous avons réussi un exploit.
Il a droit à une clochette, le maître Divisio.
Un exploit absolument brillant. Avoir la campagne présidentielle la plus chiante de toute l'histoire de la République, où on parle d'immigration, de sécurité, alors que les vrais sujets, quand on dépense en un mois le budget test de toute l'année 2022, est comment l'État va survivre à cette crise.
Ah là là !
Il ne survivra pas, l'État est mort philosophiquement, il est mort politiquement, et il est mort économiquement désormais. Voilà, voilà, mon cher Adil, plein de joie et de bonne humeur.
Toujours aussi incisif, hein, c'est incroyable, hein. Incroyable, maître Divisio. Fabrice Divisio, bravo. Et on se retrouve donc mercredi prochain sans faute et avec autant de forme.
À bientôt.
À bientôt. Prenez soin de vous. Le Quoi de Neuf.
Les informés. Le face-à-face.
C'est parti, le face-à-face tout de suite, vous le savez, avec Gamal Abina. Bonsoir, mon cher Gamal. Comment vas-tu ?
Bonsoir.
Comment allez-vous plutôt ?
Très bien, et vous ?
Toujours porte-parole du mouvement citoyen ?
Toujours. Des droits civiques.
Des droits civiques plutôt. Pardonnez-moi. Tout se passe bien ?
Impeccable, comme d'habitude.
Impeccable, comme d'habitude. Tiens, alors là, c'est, lui, il a le droit à plusieurs clochettes, lui. On va le punir, encore ! Il est puni ! Vous l'avez déserté, la radio, dites donc, mon cher Dionor, excellent !
Mais oui, confinement.
Moi, je vais vous dire, hein, tu as l'appel surprise ? Non, mais attendez, parce que vous en avez loupé, hein, vous savez, des concepts ici. Hein.
Et oui.
Vous avez déserté la radio depuis que vous êtes maire. Vous nous avez boudé.
Pas du tout.
Bon, ah, je rigole, je vous taquine.
Qui aime
bien,
c'est
bien.
Merci. Ben, vous savez, c'est vrai que depuis la première vague de confinement, j'étais pas venu en direct sur place, mais on a eu l'occasion aussi d'entendre la voix de Viltaneuse.
Ah, je décroche.
Invité plusieurs fois.
Je décroche. Vous permettez que je décroche ?
Très bien, allez-y.
Allô ? Ah, c'est le maire de Viltaneuse. C'est le maire de Viltaneuse qui est avec nous. Le vrai ? Non mais attendez, j'ai le maire de Viltaneuse, vous l'entendez là ? Il me dit, hein ? L'usurpation ! Usurpation ! Ah ! Usurpation ! C'est là, terrible ! Merci monsieur le maire de Viltaneuse, merci. On se fait prévenir, vous avez vu ?
Oui.
Bon Dieu, non, excellent, depuis qu'il est élu maire de la Viltaneuse. En tout cas, monsieur le maire, merci de revenir parmi nous.
Ben, merci pour cette invitation.
Ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir.
À plusieurs reprises déjà, ben, c'était, absolument, souvent c'était par téléphone, parce qu'en raison des consignes sanitaires, bon, c'était plus évident de rester en distanciel pour cette émission. Mais c'est un plaisir pour moi de retrouver Gamal, de retrouver d'autres co-débatteurs et de retrouver toute l'équipe. Et merci pour cette invitation. Vous savez que
vous êtes toujours chez vous ici. Mais je sais qu'on est très écoutés.
Je me sens chez moi.
Mais vous êtes chez vous, monsieur le maire.
Merci.
Vous êtes ici, vous avez évidemment bourlingué pas mal de choses avec nous.
Tout à fait.
Voilà, absolument.
Merci beaucoup.
Sabrina Nouri, bonjour.
Bonsoir.
La mélanchoniste, comment ça va bien ?
La mélanchoniste.
Elle a le sourire jusqu'ici. Qu'est-ce qui explique cette banane ?
Eh ben écoute, je suis très contente d'être parmi vous ce soir.
Bah, partagez. Voilà. Ça va, tout va bien ?
Ça va très très bien, merci.
Mélenchon est en forme ?
Il est en très grande forme.
Et vous aussi ?
Oui.
Ça va, vous pétez les sondages, vous ?
Ah bah non, on a la pêche, on a la patate.
Et donc, hein, Sabrina Nouri, vous nous avez boudé aussi, là. Pourquoi on ne vous a pas vu depuis quelques mois ?
Quelques mois ? Bah oui. Non, quelques mois.
Ça remonte à novembre dernier. Hein.
Ah oui, d'accord. Ah bon, ouais, à ce point ?
Eh oui, hein, quand même. Hein.
Oh là !
Sabrina Nouri, elle a...
Non, mais Mélenchon, on est très occupés.
Non, mais je comprends les priorités.
On est très occupés.
Je comprends.
Un meeting par semaine, on est très occupés.
Je crois que... Je comprends, vous savez, je comprends. C'est normal. Je comprends. C'est...
Ah,
je pensais. Non ? Ah, ben vous avez vu, je vous l'ai dit. On décroche ?
Allez.
Allô ? Allô ? Ah, Jean-Luc Mélenchon.
Incroyable.
C'est Jean-Luc Mélenchon.
Mais non.
Ah, vous nous la rendez juste après parce qu'on en a besoin.
Il n'est pas énervé,
il est plutôt cordial. Bon, on va vous la rendre, Jean-Luc Mélenchon, vous inquiétez pas. Jean-Luc Mélenchon, c'est comme ça, nous. Tout est fraternel chez nous, etc. Allez, plus sérieusement, parce que vous êtes là aussi pour débattre, chers amis. Hein.
Oui.
Surtout qu'on a un maire avec nous, hein. Le maire de Villetaneuse. Hein. Mm-hmm. Il plaisante pas. Hein.
Ou l'usurpateur.
Non, c'est le vrai, là.
Là, c'est le vrai.
C'est le vrai. Allez, ce massacre est impardonnable. Emmanuel Macron reconnaît la fusillade. À Alger, mesdames et messieurs, madame et messieurs, un discours qui a été prononcé par Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a reconnu la fusillade qui avait entraîné la mort de dizaines de partisans de l'Algérie française. Écoutons ce court extrait, justement, du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui s'exprimait tout à l'heure, il y a quelques heures. Écoutons.
60 ans après, la France reconnaît cette tragédie. Et je le dis aujourd'hui haut et clair. Ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République. Les accords d'Évian actaient la cessation des hostilités, l'interdiction des violences individuelles et collectives, la garantie de la sécurité des personnes et des biens des Français d'Algérie. Mais il n'en fut pas ainsi. Et nous savons l'ambivalence de cette date. Victoire et soulagement pour certains, défaite et calvaire pour d'autres. La suite, ce fut notamment la fusillade de la rue d'Isly le 26 mars 1962. Ce jour-là, des soldats du 4e régiment de tirailleurs, une unité de l'armée française, firent feu sur une foule qui manifestait, attisée par l'OAS, son attachement à l'Algérie française en cherchant à rompre le blocus du quartier de Bab El Oued.
Alors, est-ce que cela s'inscrit dans toute une série de prises de parole et de commémorations, justement Gamal Abina, c'est vrai, j'allais vous donner la parole, qui était liée à la guerre d'Algérie. Alors, est-ce que ça s'inscrit dans, évidemment, dans cette série
de
commémorations et de devoirs de mémoire?
Plus que ça, là on est dans une démarche politique très évidente, qui est salvatrice dans une certaine mesure. Maintenant, il faut traduire les choses. C'est un discours qui dure 22 minutes, que j'ai écouté entièrement, que j'ai décortiqué.
Oui.
Discours dans lequel...
Ah, décortiqué.
Oui, clairement.
Intéressant.
Donc, par exemple, quand il dit que ce massacre de la rue d'Isly était attisé, parce que les manifestations ont été attisées par l'OS, ce qui est dommage, c'est qu'on n'entend pas ce qui s'est réellement passé. À savoir que le démarrage des massacres, c'est des tirs qui ne venaient pas de l'armée française, qui ont été perçus comme étant ceux de l'OAS parce que c'est une organisation criminelle terroriste qui a tué pendant 6 mois.
Oui.
Il faut savoir une chose qui n'est pas dite en France, malheureusement. Il faut clarifier les situations. L'OAS a fait plus d'attentats terroristes en 6 mois que toute l'Algérie, pendant toute la guerre d'Algérie avec les Algériens. C'est-à-dire que les massacres à grande échelle, c'est une chose. Ensuite, il faut rappeler les chiffres. On estime qu'il y aurait eu 49 morts à la rue d'Isly. On estime aussi qu'il y aurait... Il parle d'un massacre qui arrivait après le 5 juillet.
C'est ça.
Tout cela, c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence de... Et là, il faut rappeler des réalités historiques. Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de gens, par exemple, qui ont refusé d'aller à cet événement, à cette reconnaissance des crimes. On oublie une chose, c'est que la principale organisation de rapatriés, qui regroupe à peu près 8000 personnes, qui s'appelle les Cercles Algérianistes, ont refusé d'y aller pour une seule raison. Et vous imaginez un petit peu le côté revanchard et hargneux de ces gens-là. Ils ont refusé d'y aller parce qu'ils reprochent à Macron d'avoir dit en février 2017 que c'était un crime contre l'humanité, la colonisation, le crime contre l'humanité. Donc il a caractérisé ce crime, qui est indiscutable, pour ça. Ensuite, il parle d'apport des colons. Alors là, par contre, j'aime pas trop le terme parce que c'est nuancer la réalité politique de ce qui s'est passé en Algérie. L'Algérie conquise est un vol. Ça commence par un vol. C'est-à-dire que les Français devaient de l'argent aux Algériens pour payer le blé que les Algériens ont livré pour la guerre contre les Prussiens. Ils n'ont pas payé. Et non seulement ils n'ont pas payé, mais ils sont venus voler 5 milliards d'or du blé d'Alger en se servant en 1830. Sous un faux prétexte du coup de l'éventail. Donc je ne vais pas revenir trop loin dans l'histoire, mais bon, ça commence par un vol. Ensuite, ils massacrent 1 million de personnes quand ils rentrent en Algérie. 1 million de personnes, un tiers de la population exterminée. Pour les pousser sur les hauts plateaux, dans les steppes désertiques et dans les lieux les moins...
Mais le fait que la France reconnaisse cette tragédie quand même, 60 ans après ce drame, passé sous silence, il faut le dire ça.
C'est normal, mais Macron a deux ailes à nourrir dans son mouvement. Il a l'aile droite et l'aile gauche, entre guillemets, ce qui reste de l'aile gauche. L'aile droite, c'est quoi? C'est les anciens rapatriés d'Algérie.
Mais c'est un pas énorme.
C'est un pas énorme à destination de l'aile droite.
Oui.
Ça n'intéresse pas l'Algérie, ça.
Ah oui.
Et c'est normal, parce que les massacres, en comparaison, il y a 49 morts, il y avait 100 à 600 morts par semaine pendant toute la guerre d'Algérie pendant 7 ans et demi. C'est ça la réalité. Ensuite, le français colon qui arrive là-bas ne travaille pas. Il le dit pas, Macron. C'est des feignants. Ils sont là pour exploiter des esclaves, car les Algériens sont réduits à l'esclavage. Ils volent les richesses, ils ne remboursent pas leurs dettes, ils volent leur or, ils volent leurs terres, et en plus ils tuent la population. Donc ça, c'est des choses qui sont pas dites, parce qu'évidemment Macron est président de la République, il va dire mon pays a été barbare. Mais par contre, les avancées, et là je vais résumer rapidement les avancées de Macron par rapport à ça, c'est vrai que c'est le président qui en a fait le plus. Sur les 60 dernières années que les autres.
Absolument.
Il a fait quoi? Je résume rapidement. Il a parlé, alors il y a une chose qui m'a touché personnellement.
Alors si vous voulez bien, on continue.
Très rapidement.
Non mais c'est pas ça, je dois lancer la pub, absolument. Okay, je lance la pub et on se retrouve justement tout de suite après au 01 53 48 3000. Vous aussi, vous pouvez intervenir et justement venir commenter, témoigner, les informer. On revient dans une poignée de minutes. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informer revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, on est ensemble jusqu'à 20h. 20h au 01 53 48 3000, c'est parti, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et c'est Yanis qui vous attend au standard partout en France. Je voudrais vous entendre commenter donc la déclaration d'Emmanuel Macron sur le massacre. Le massacre est impardonnable. Emmanuel Macron qui reconnaît la fusillade de la rue Alger, la rue d'Isly à Alger, pardon. Et évidemment, est-ce que tout cela s'inscrit dans un nouvel acte mémoriel pour Emmanuel Macron? Je voudrais vous entendre aussi livrer votre témoignage. 01 53 48 3000. Les informés, c'est avec Gamal Abina. Les informés, c'est avec aussi Sabrina Nouri. Et également avec le maire de la ville Tanneuse, la ville de Viltaneuse, pardon.
Ou de Viltaneuse.
Ou de Viltaneuse, absolument. Dieu Nord excellent qui est parmi nous de retour. Justement, Sabrina Nouri, et ensuite après le maire de Viltaneuse.
Oui.
Sabrina, concernant donc cette déclaration d'Emmanuel Macron.
Alors déjà, je remercie Gamal pour ce
point. Il pas fini.
Pardonnez-moi,
Sabrina.
Non,
mais je lui avais dit, promis.
Il faut qu'il finisse son propos.
Allez-y,
très
alors voilà, donc il y a une chose qu'il faut savoir. Bon, moi, ça me concerne autant que beaucoup de descendants de l'immigration algérienne. En substance, il a fait des gestes en 60 ans plus que les autres présidents. De ce point de vue-là, on ne peut pas le critiquer, parce que Macron n'est pas un enfant de la guerre d'Algérie. Il le dit tout le temps. Donc, il a fait quoi? Il a reconnu le meurtre du communiste Maurice Audin. Juste avant la mort de sa femme, il s'est formidable, il s'est déplacé, bref, on s'en souvient. Il a reconnu, c'est surtout le plus important pour moi, le meurtre de Ali Boumendjel, l'avocat du FLN, qui a été assassiné, dont le fils, qui est un ami personnel, Sami Boumendjel, je lui rends hommage à sa mémoire parce qu'il est mort en 2014. Il n'a donc pas eu la chance de voir cette reconnaissance de son vivant, alors qu'il s'est battu toute sa vie pour ça. C'est une reconnaissance qui avait du poids. Il a reconnu, évidemment, le 17 octobre 61, le massacre inqualifiable. Il a fait le 16 octobre.
Il y a quelques mois.
Absolument. Il a reconnu aussi le massacre des, rappelons-le quand même, des Harakis d'Algérie qui sont arrivés en France et qui ont été maltraités, pas seulement en Algérie, mais maltraités ici. Ça, il l'a reconnu. Et il reconnaît maintenant, c'est donc la droite qui est satisfaite, la question de la rue d'Isly. Mais ce qui manque, et c'est là où on s'attend à quelque chose de très fort d'ici le 19 mars, c'est une reconnaissance du crime d'État en Algérie. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a des radicaux en France, et on parle de radicalisation en l'occurrence, qui n'acceptent pas l'idée que la barbarie coloniale a conduit à la mort de millions de personnes et au vol de personnes. Je rappelle donc ce qu'est la colonisation. C'est une prédation, c'est un vol, c'est un viol, c'est une destruction culturelle. Ils ont fait un génocide culturel en Algérie. C'est le discours de Bouteflika qui l'avait dit à l'époque, son meilleur discours d'ailleurs. Et surtout, la barbarie coloniale n'a aucun bienfait. Et j'en veux pour preuve que si on commence à parler des bienfaits de 132 ans de barbarie coloniale en Algérie, entre 4 et 6 millions de personnes exterminées, je le rappelle, et 600 personnes par jour pendant la guerre. Il faut se rappeler qu'on tue un par semaine. Toutes les semaines, 600 personnes, 600 Algériens mouraient par semaine, d'accord? C'est pas 50 personnes à la rue d'Isly. Si on fait un rappel historique, à ce moment-là, pourquoi ne dirait-on pas la pire chose, que les 4 ans d'occupation nazie en France ont été bénéfiques, puisqu'ils ont construit quelques chemins de fer, ils ont apporté quelques structures économiques. On peut raconter ce genre de bêtises. Eh bien non, on ne peut pas le dire parce que ça s'appelle de la négation de la douleur d'un peuple et surtout, ça s'appelle la négation du fait que le colon vient pour voler, il ne vient pas pour faire du bien.
Enfin, on va écouter Dieu Nord excellent. Le maire de Viltaneuse, alors quel est votre point de vue sur justement lorsque Emmanuel Macron qui reconnaît la fusillade de la rue d'Isly à Alger qui avait entraîné évidemment plusieurs dizaines de morts?
Moi je pense que c'est une bonne chose, c'est vrai que là on est dans un changement quand même de paradigme entre un président qu'on a tous connu qui nous vantait les bienfaits de la colonisation comme vient de le rappeler Gamal en parlant de monsieur Sarkozy, et on est passé à un président qui est en capacité de reconnaître que oui il y a eu des crimes contre l'humanité, d'ailleurs l'esclavage a été reconnu comme crime contre l'humanité, la colonisation, moi je pense que ça va dans la continuité de ce que sait faire le président Macron, et on est dans une période aussi électorale, il ne faut pas oublier qu'il y a les élections présidentielles présidentielle, donc c'est important
ça
de
joue, ça compte
mettre. Bah, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. En revanche, moi, là où j'attends qu'il aille encore plus loin, c'est le 17 octobre 1961. Il y a eu aussi un massacre en France. Les Algériens qui manifestaient de manière pacifique. Il y a eu un couvre-feu qui était pour les Algériens. Ouais. Et là, il faut encore aller plus loin sur tous les massacres et reconnaître tous les crimes contre l'humanité qu'a pu poser la France, parce qu'il faut oublier, la preuve en est, autour de cette table, nous sommes tous des enfants issus de l'immigration, on peut se considérer comme des issus d'eux, mais français. Donc c'est toute cette histoire de la France qui doit être reconnue comme dans les choses ignobles, inhumaines, l'esclavage, la colonisation, et aussi les choses aussi positives, parce que c'est aussi ça la France. Donc je pense que c'est une bonne chose, il faut le saluer, parce que d'autres ne l'ont pas forcément fait, et même ceux à qui on pourrait attendre un peu plus de démarches de reconnaissance de ces crimes contre l'humanité.
Sabrina Jou, on vous a pas entendu.
Oui, bah écoute, Sabrina Loury. Adil, moi ce que j'ai juste à dire, c'est que moi je vais pas remonter trop loin dans l'histoire comme Gamal. Moi je vais juste remonter au 30 septembre dernier. Il y a eu quand même un gros clash entre l'Algérie et la France, des propos d'Emmanuel Macron, un incident
maladroit,
diplomatique, maladroit, c'est plus maladroit, que ça, hein, c'est pas maladroit, hein, c'est plus que ça, un incident diplomatique qui a rompu en fait le dialogue entre les deux pays. Et moi je pense qu'aujourd'hui, à 3 mois des élections présidentielles, il se devait de faire quelque chose, et je pense qu'il en a bien profité, malheureusement. Alors on peut acclamer, on peut reconnaître en fait qu'il a donc reconnu ce massacre effectivement de la rue d'Islay. D'ailleurs, moi quand on en parle, ça me fait drôle, parce que comme tu dis qu'on est issu de l'immigration, moi mes grands-parents habitent Beblouet de Trois Horloges, donc cette histoire me touche, puisque mes grands-parents, ma famille a vécu cette histoire. Donc c'est effectivement, quand c'est dit comme ça, ça a tout son sens et ça a tout son poids. Mais on reste quand même dans une pré-campagne électorale, et je trouve quand même,
comme
que
dit Dionor Excellent,
parce qu'il avait quand même, il est là depuis 2017. Bon, voilà. Donc le clash qui s'est passé en septembre découle en fait de tout ça. Il y a eu le 17 octobre, il y a eu donc un hommage qui a été fait, mais ça n'a pas suffi. Et donc là, il a poussé le bouchon plus loin, en reconnaissant ce crime contre l'humanité. Maintenant, voilà, chacun aura son opinion. Il y en a qui vont dire que
donc cette reconnaissance, finalement, elle s'inscrit dans une série d'actes mémoriels.
Voilà, mais n'empêche qu'il faut faire attention. Ça reste de la politique, d'accord, entre deux pays, et donc il faut faire attention. Il faut avoir un poids, et il faut vraiment reconnaître les faits. Donc moi, j'attends qu'ils reconnaissent d'autres crimes contre l'humanité et pas que celui-ci.
Moi, j'allais dire une chose importante.
Gamal Abina, oui, avant de passer au second sujet.
Macron a fait la fusion entre la droite et la gauche, en gros, pour faire gros. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il y a les élections qui arrivent, effectivement, pas le perdu, c'est à l'agenda électoral. Indépendamment du fait qu'il a fait beaucoup de travail avant, il faut quand même lui reconnaître ça, et ça a été difficile, parce qu'il a failli ne pas être élu à cause du crime contre l'humanité qu'on lui a reproché.
Bien sûr. Ça lui a coûté cher.
Ça lui a coûté très cher. Après, bon, il a composé avec. Ce qui est sûr, c'est que là, il faut savoir deux choses. C'est que l'histoire des pieds noirs ou la rue d'Islay, l'Algérie s'en fout royal. Simplement parce que ça ne regarde pas l'Algérie. C'est un problème franco-français. Ce qui intéresse l'Algérie, c'est Ali Boumedjel, c'est aussi Maurice Audin, et c'est le 17 octobre. Ces trois faits-là, et bien sûr le crime contre l'humanité, c'est les faits qui parlent à l'Algérie. Et c'est bien de rappeler qu'effectivement, en septembre dernier, il y a eu un grave problème entre la France et l'Algérie, avec rapatriement, enfin ils ont rappelé leur ambassadeur.
Ils ont rappelé l'ambassadeur, absolument.
C'est quasiment en rupture de relation. Pourquoi? Parce qu'il a dit que c'était une rente mémorielle. Donc d'un côté, il souffle le chaud et le froid, parce qu'il satisfait dans son parti, qui est encore une fois un front républicain, entre guillemets, un front de parti, il satisfait l'aile droite un coup et l'aile gauche. Donc aujourd'hui, Macron, dans le en même temps, pour le coup c'est du vrai en même temps, il fait les deux.
Il fait les deux. Et on va passer, donc, avant de retrouver le Quad 9 avec le docteur Majid Soussine, je voudrais qu'on avance aussi notamment sur le second sujet qui a retenu notre attention. Alors là, effectivement, je voudrais vraiment qu'on prenne le temps d'en parler, parce que il y a des choses, moi, qui m'hérissent, et des choses qui, évidemment... Non mais c'est vrai, Sabrina Loury, et c'est le rôle aussi des informés sur Beurre FM d'en parler. Alors, un sondage qui quand même fait émerger la chose suivante, 56% des Français estiment que les immigrés coûtent plus cher à la France qu'ils ne rapportent. Ce sondage a été réalisé par, évidemment, Harris Interactive, mais bon, il est tout récent, il date de fin décembre. Mais bon, ça veut dire beaucoup de choses. Il donne beaucoup de... Il a, quand on le lit et quand on le scrute attentivement, en gros, l'apport des immigrés engendre beaucoup trop de dépenses publiques que, évidemment, ce qu'il n'apporte à la croissance économique du pays. Moi, j'ai envie de dire non, mais je voudrais vous écouter. Je voudrais vous écouter parce que ça me paraît quand même grotesque, quand même, franchement, parce que il suffit d'imaginer comment aux États-Unis de consacrer une journée noire et se dire tous les immigrés ne bossent pas pour la France, stop, une journée.
Non.
C'est des milliards qui partent en fumée. C'est pas des millions, absolument. C'est des milliards qui partent en fumée. Gamal Abina.
D'abord, on va commencer par une chose sérieuse. Si l'immigration coûte à la France, ils ne seraient pas venus la chercher.
Merci.
C'est un petit peu ça. Ils sont quand même venus les chercher. Ils sont venus avec des accords négociés, prendre les hommes dans les montagnes et dans les coins perdus d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, particulièrement pour certains secteurs d'activité, commerce, textile, usine et mine. Donc tous les métiers ingrats. Et surtout, et ils devraient dire merci à ces mêmes immigrés et fils immigrés qui ont maintenu en vie le pays pendant toute la période des 55 jours que j'appelle le Pékin, donc les fameux 55 jours Covid, où c'était eux qui étaient en première ligne. C'est d'ailleurs pourquoi il y a plus de morts dans les quartiers populaires, parce que précisément, ils sont dans tous les métiers liés aux services. Service aux malades, service de livraison, service à domicile, service hospitalier, infirmier, tout ça, c'est surtout les immigrés qui sont massivement et surmassivement représentés, puisque les Français ne font plus ces métiers pour des raisons X et Y. Et pour finir, et surtout, les chiffres, ils sont simples. On prétend, le Front National, c'est sur le même front, le front des surexcités du cerveau, prétendent que l'immigration coûterait 15 milliards. C'est en 2018, 15 milliards à la France. Ça, c'est des chiffres qu'ils inventent, évidemment. L'aide médicalisée coûte 1 milliard au budget de l'État, donc une goutte d'eau. C'est 1 milliard sur 300 milliards, c'est une goutte d'eau. En revanche, l'immigration, avec des chiffres INSEE, cette fois-ci, donc sérieux, rapporte à la France 23 milliards à 30 milliards par an en fonction des bonnes ou mauvaises années. Donc ça veut dire que la création de richesses faite par les immigrés est tellement forte qu'elle rapporte des sommes faramineuses. Et pour finir,
on continue.
Juste pour finir, 10% des créateurs d'entreprises en France, 10% sont d'origine étrangère.
Une minute de retard, on continue d'en parler. Sabrina Nouri, promis, je vous donne la parole. C'est le Quoi de Neuf, je suis obligé de le lancer.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Votre énergie, Sabrina Nouri, gardez-la, préservez-la, canalisez-la, j'ai presque envie de vous dire. Nous accueillons le docteur Majid Soussine. Bonsoir, mon cher docteur.
Bonsoir, Adil.
Chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi aux Invalides chez les militaires et au SAMU. Un docteur brillantissime qui est avec nous. Vous savez ce que je voudrais faire? Je le fais jamais, mon cher docteur Majid Soussine. Je voudrais simplement transmettre mes amitiés les plus chaleureuses à quelqu'un que vous connaissez aussi, qui s'appelle docteur Ali Bounekar.
Un garçon remarquable.
Un garçon, j'ai envie de dire, de grande classe. Voilà, c'est passé. S'il
petit
nous
message,
écoute...
excuse-moi, il n'est pas d'origine immigrée, ce monsieur-là?
Non,
comme ça, on passe à
attends, tu
il a droit à la clochette, voilà, oh. Exactement. Majid Soussine, on vous écoute pour votre billet d'humeur.
Je crois que moi-même, je suis un peu d'origine immigrée, mais ça fait tellement longtemps que ça s'oublie.
Ça s'oublie. Attendez ce qu'il vous a répondu. Ça fait tellement longtemps que ça s'oublie.
C'est pas l'accent qu'il travaille.
Ouais, c'est ça. Bonjour, allez, on Majid. Vous écoute, docteur Majid.
Si vous voulez, je peux rouler l'air. Hein.
Allez-y, on vous écoute.
Écoutez, mon cher Adi, cette semaine, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Non pas que j'ai pris le thé avec Brigitte Macron, je sais que ça vous impressionne.
Ah, je sais, vous le faites régulièrement, alors.
Non,
arrêtez.
Tout le monde sait bien que tous les mercredis, vous prenez le thé avant de venir au studio.
Ah
avec...
Tu vas prendre ça. Il est fou, lui. On vous écoute.
Non pas non plus. Que Valérie
Pécresse. Il est fou, celui-là. Mais il est taré, sérieux. Mais les auditeurs, ils vont croire que c'est vrai.
Ouais,
c'est ça le pire. J'ai eu le droit à des appels d'auditeurs. Ce que dit le docteur Soussine, c'est vrai, monsieur Farcan?
Non, mais attention.
Bah
parce
non,
qu'on peut
le second degré.
On peut dévier. Il y a aussi les déjeuners de Marlène Chapien.
C'est ça. Allez, on vous écoute, docteur.
Je disais donc, non pas non plus, que Valérie Pécresse m'ait prêté son Karcher pour nettoyer ma voiture salie par la boue des quartiers populaires. Non pas que j'ai réussi à faire comprendre à Anne Hidalgo pourquoi tout le monde la détestait.
Ouais,
ce serait sûr. D'ailleurs plus facile d'expliquer à Trump que la bêtise est une maladie incurable, même en se nettoyant le cerveau avec de l'eau de Javel.
C'est pas gentil, clochette.
Eh bien non, Adil, figurez-vous que cette semaine, je me suis trompé.
Ah bon?
Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps, depuis au moins un quart de siècle, pour tout vous dire, c'est-à-dire quand je me suis marié.
La pauvre femme. Sabrina Nouri, tu vas prendre une baffe de Sabrina Nouri, attention. Hein. Oui, docteur.
J'adore les baffes. Vous avez peut-être croisé comme moi cette campagne de petits-fils, association de services à domicile, qui a été mon cas. Je tombe à Pantin sur une affiche avec une photo qui proclamait « Devenez Fatima, une auxiliaire de vie à domicile
c'est
qui
vrai.
Peut se dédier à Simone et André ».
Ah, je voudrais qu'on applaudisse le docteur, voilà, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi ?
Parce
que attendez, c'est pas fini.
C'est pas mon effet.
Je vous félicite pour le grand buzz que vous avez provoqué. Il a provoqué un énorme buzz sur Internet.
Partage aussi.
Bravo, docteur.
Chapeau.
À vous seul, vous avez provoqué un énorme buzz.
Vous verrez que un téléprix qu'il croyait prendre. Mon sang ne fait qu'un tour. Je prends une photo rageuse et je me fends un message sur les réseaux. Il y en a marre des clichés. Devenez ma jean, médecin.
Ouais.
Énorme succès. Des likes à n'en plus finir.
C'est ça.
Et je commence à me prendre pour vous.
Ouais.
Une star avec un costume brillant.
T'as l'air un passage.
Mais ne voilà-t-il pas que l'on me fait remarquer gentiment d'abord, puis avec ironie, puis un peu de mépris, qu'il existe d'autres affiches avec Christiane,
oui.
Maria.
Bah oui, on vous l'a reproché en plus.
Peut-être que je me suis enflammé un peu vite.
Oui, je
J'aurais
pense
dû
aussi.
Faire comme un bon journaliste que je ne suis pas,
oui.
Vérifier.
Venez voir.
Ce que d'ailleurs tous les journalistes ne font pas.
Moi non.
Je tente de me défendre, faisant remarquer qu'il aurait été plus habile de mettre les quatre prénoms sur la même affiche pour éviter un malentendu
c'est
dans
ça.
Ce contexte assez zémourien en France. Puis très vite, arrivent quelques commentaires racistes. Arrêtez vos chialeries. Vous êtes insupportable à voir du racisme partout. C'est très bien que Fatima soit valorisée en tant qu'auxiliaire de vie. Ce à quoi je réponds un peu naïvement, que ça fait des années qu'avec d'autres, on se bat pour que Fatima soit enseignante, avocate, ingénieure. D'autres me répondent que je ne devrais pas m'inquiéter, que nous sommes tous frères, ce que je veux bien croire. Certains me disent que j'ai raison, qu'on aurait dû faire une affiche avec Christiane s'occupant de Mamadou et de Fatima pour renverser les rôles, sûrement quelqu'un adepte de la culture woke.
Ouais.
J'étais en train de me dire que c'était, comme finalement, cette histoire, ce petit débat, tout ça, c'était assez représentatif de la France. Un peu perdue, diverse, ce qui entre l'humanisme, l'inquiétude, la gêne de voir ses enfants de l'immigration qui se rebellent, quand tout à coup, arrive un message des supporters de Monsieur Z.
J'ai vu.
Qui reprend mon poste. Avec des hashtags immigration, invasion, islamisation, racaille. Et là, je me dis que finalement, l'erreur était juste.
Ouais, ouais. Franchement, bravo en tout cas pour le buzz que vous avez provoqué, on peut l'applaudir.
Bravo.
Bravo, docteur Majid Soucine. Bravo, vous pouvez être évidemment fier du succès des réseaux sociaux que vous avez provoqué à vous seul. Véritable phénomène à lui seul, le docteur Majid Soucine. Vous allez changer de profession, je crois. Hein.
Ah bah,
vous allez devenir ce qu'on appelle, vous savez quoi, influenceur.
Non, je vais devenir menteur professionnel, c'est-à-dire dentiste, et je serai plus riche.
Ah, c'est ça. Allez, à mercredi prochain, sans faute, mon cher docteur.
Avec joie.
Avec joie partagée. Si oui, attendez, il y a le maire de Villetaneuse qui veut vous parler, docteur.
Je vous dirais merci pour ce billet, parce qu'en fait, la gêne n'est pas que celle des enfants de l'immigration qui se rebellent, mais c'est aussi celle des enfants de l'immigration qui réussissent. Et c'est la raison pour laquelle on n'en parle pas, on ne les montre pas. Et ce genre, c'est pour enfermer justement les personnes dans l'inconscient collectif que Fatima, oui, elle ne peut être que ce type de métier qui n'est pas dévalorisant pour autant, mais il y a aussi d'autres personnes qui réussissent aussi dans des métiers qui sont un peu plus prestigieux et qui montrent qu'il y a une réelle ascension sociale.
Absolument.
Des personnes issues de l'immigration et que c'est un bénéfice pour la France et d'où le sujet qu'on traite actuellement.
Voilà, juste après, n'est-ce pas docteur ? Voilà.
Mais la question que je me pose depuis de très très longues années, quand cesserons-nous d'être des immigrés ou des enfants
de voilà la vraie question. Et
bien
peut-être qu'un jour on aura la réponse, on va marquer la seconde pause. Merci docteur Majid Soucine.
À votre service.
À la semaine prochaine, sans faute, nous allons marquer la seconde pause pub. Et on se retrouve dans une poignée de minutes avec les débatteurs influenceurs justement concernant le sujet qui consacre donc les 56%, paraît-il, qui évidemment des immigrés qui coûtent beaucoup trop cher à la France. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Les Informés, c'est avec le maire de Villetaneuse, Dionor Excellent. Les Informés, c'est avec Sabrina Nouri et enfin avec Gamal Abina. Sabrina Nouri, on vous écoute concernant donc ce sondage concernant les immigrés qui coûtent trop cher maintenant.
Oui, écoute, moi je suis absolument pas étonnée de ce sondage qui sort maintenant en fait. Hein. Et puis ça va pas finir puisque si tu veux, la thématique du Covid, elle commence à s'estomper.
Et il faut supprimer les RSA. Hein.
Oui,
aussi, ils disent. passage. Hein.
Non, non, mais Emmanuel Macron.
Parce que les LRSA, c'est les immigrés. Non, donc ils pompent le fric.
Clair. Non, mais qu'on soit clair, si Emmanuel Macron est réélu en avril, là, ça va être un carnage.
Ah bon,
un carnage. Ça va être un carnage. Déjà qu'il avait un peu open bar sur les cinq dernières années.
Clochette, vous avez droit à une clochette.
Voilà, j'ai droit à une clochette. Mais là, les cinq prochaines années, s'il est réélu, bah là, il va se sentir encore plus poussé des ailes. Et là, vous allez voir tomber toutes les directives européennes avec une politique néo-libérale à outrance. Et là, bon, bah voilà. On avait dit la dernière fois, il y a cinq ans, les gens vont pleurer du sang. Là, je ne sais pas ce qu'ils vont pleurer. Mais ça va être une catastrophe économique, sociale, tout ce que vous voulez. Ça, c'est une. Ça, c'est, vous m'avez envoyé sur le sujet. Je réponds sur.
Sabrina Nourri, là, elle est.
Il ne faut pas lui tendre la perche. On a oublié le sondage des 56%.
Sur ce sondage, précisément, on est donc à trois mois à peine des élections présidentielles. La thématique du Covid commence à prendre un petit peu moins. Il y a moins d'engouement pour ce sujet. Franchement, tout le monde est vacciné, tout le monde est contaminé. Bon, ben, on a compris. Hein.
Enfin, tout le monde est vacciné.
Voilà. Maintenant, il faut trouver donc les éléments de langage, les thématiques qui font vivre les élections. Eh bien, c'est quelle thématique? C'est bien l'immigration. Donc là, on est encore en plein dedans.
On va en parler,
mais
là.
Aujourd'hui, franchement, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, l'immigration aujourd'hui, ou les enfants issus de l'immigration, mais aujourd'hui, on est épanouis en France, on se sent français à part entière, et on ne fait pas que des travaux de première ligne. Alors, il y en a, effectivement, tout dépend le niveau d'études, mais il y a quand même sur ces 10, 15, 20 dernières années.
C'est vrai,
et je peux vous assurer que les chefs de service des plus grands hôpitaux de France ne s'appellent pas Jérémy, ne s'appellent pas François. Je ne veux pas stigmatiser les gens.
Ali Bounekar, il s'appelle Majid Séhoussine, il s'appelle.
Absolument, absolument. Les ingénieurs, que ce soit des hommes, beaucoup de femmes qui viennent d'Algérie, du Maroc,
français, hein.
De Tunisie, etc., qui viennent du Maghreb. Ils sont français à part entière. Et ces gens-là, un jour, vous les verrez. Parce que, pourquoi on n'en parle pas? Parce que tout simplement, il y a un manque d'engagement pour le moment en politique pour faire basculer.
Faut faire ce qu'ont fait les Mexicains aux États-Unis,
basculer.
Décréter une journée noire.
Mais moi, je suis fière d'entendre.
On a essayé il y a quelques années.
Et ça n'a pas fonctionné.
Mais moi, je suis fière d'entendre que des enfants issus de l'immigration s'engagent dans les élections. Parce que tant qu'on n'investira pas les institutions, tant qu'on n'investira pas les institutions, ça ne changera pas.
Sabrina, je suis ravie que vous dites ça. Il faut investir.
Il faut s'investir. L'abstention.
Votez, les amis, c'est qu'on s'abstienne pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent.
Et aujourd'hui, si la loi du séparatisme elle a été mise sur la table, c'est que parce que nous ne nous engageons pas. Nous nous engagerons en politique, il n'y aura jamais cette loi de séparatisme, et il n'y aura pas ce qui nous prépare pour l'avenir. Engagez-vous, allez voter le 10 avril, vous avez quand même des candidats qui portent des projets communs, qui portent des projets progressistes, d'avenir, de solidarité. Engagez-vous, mettez ce.
Je vais écouter le maire de Villetaneuse, du Nord excellent.
En tout cas, je salue l'engagement de notre ami, et même si vous êtes sorti un petit peu du sujet du 56%, mais vous avez je suis complètement d'accord avec vous, et c'est vrai que demain, si on donne aussi la parole à d'autres personnes, comme vous, comme Gamal, comme moi aussi, on entendra autre chose, et on constatera que réellement, il s'agit là de ressentis, disons-nous la vérité, il s'agit de 1500 personnes qui ont été interrogées. Alors, il faudrait voir quelle est la question qui était posée, comment elle était posée, et trouver les biais. 1500 personnes, je sais pas si cet échantillon représentatif.
Elle a lâché un mot, elle a dit, au fait, on est à quelques semaines du premier tour, c'est peut-être aussi ça, c'est
oui,
pour contribuer à.
Tout à fait.
La politique de la peur.
Tout à fait.
Les gens s'éloignent des urnes.
Tout à fait. Ces 1500 personnes ne sont pas, pour ma part, représentatives, justement, de la France, des plus de 60 millions de Français. Et aujourd'hui, je disais, ce sont des ressentis. Aujourd'hui, il y a des enquêtes de l'OCDE qui montrent, allant de 2008 à 2018, qui montrent l'apport, justement, économique de l'immigration, c'est plus que moins. Donc aujourd'hui, c'est des mensonges, on le sait très bien, ce sont des ressentis, et ça alimente bien sûr ce contexte de zémorisation de l'esprit. On est passé de la lepénisation des esprits à la zémorisation des esprits, où finalement, on veut nous faire croire que le problème central, le sujet central en France, c'est l'immigration, alors que c'est faux. Et je vous envoie vraiment à cette étude qui le montre clairement, et puis moi je pense qu'il faut qu'on prenne de la hauteur. La preuve en est, aujourd'hui, on ne peut constater que l'immigration, c'est du plus pour la France.
C'est une richesse.
Et donc dans toutes les professions qui soient, de prestige ou moins, on retrouve la France dans toute sa composante, des médecins,
des ingénieurs,
comme on l'a dit. Et aujourd'hui, moi je pense qu'il faut qu'on ne considère pas ce type de sondage qui n'est loin d'être représentatif de la réalité. Et moi, je dis prenons de la hauteur parce que la France, c'est nous, c'est vous, c'est Pascal, c'est Patrick, c'est Madou, absolument, c'est Myriam, c'est tous absolument ceux qui réussissent, tous ceux qui ou réussissent Fatima aussi, ou Fatima aussi. Et du coup, et ces personnes travaillent, cotisent, payent leurs impôts, absolument, ils payent la TVA, les impôts directs et indirects, ces personnes investissent et leurs enfants sont aussi français pour la plupart. Donc moi je pense que ça alimente, comme vous le dites, ce sujet de l'immigration qui serait un problème pour la France, alors que non, la preuve en est, c'est cette France plurielle, c'est du plus. Et autre chose, la problématique aussi qui se passe, c'est qu'on regarde en France, moi je regarde dans mon département Seine-Saint-Denis, la population issue de l'immigration, elle est surreprésentée parce qu'elle représente 30% pour le reste de la population, alors que pour le reste de la France métropolitaine, ça représente que 6%. Donc c'est vrai que le focus est souvent mis sur nos quartiers, alors que on pourrait mieux accueillir les personnes en permettant une meilleure répartition dans le paysage urbain de toutes ces populations pour permettre aussi que cet effort, que ces difficultés soient moins visibles dans les quartiers
qui sont difficiles. Moi j'ai envie de dire, déjà 10% des créateurs d'entreprises sont d'origine immigrée, ça c'est une chose. Surtout, le bâtiment actuellement fait un carton, c'est le secteur d'activité qui est le plus sollicité et dans lequel on est surreprésenté, le bâtiment, donc chez l'entreprise, au petit ouvrier, et surtout de rappeler que quand on construit un pays, on construit des immeubles, d'accord, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, et c'est une chose que la plupart des gens ignorent, il y a un saut qualitatif extraordinaire, ce que les gens ne savent pas, de la génération des parents qui sont arrivés illettrés, donc qui ne savaient ni lire ni écrire, on ne parle pas d'alphabète, illettrés et analphabètes, les deux, eh bien, ces parents qui étaient frustrés parce que la France leur avait interdit l'éducation à l'école, ont mis le paquet pour que les enfants puissent apprendre à l'école en disant de façon comme un sacerdoce, étudier, bilan des courses, on est passé de parents illettrés à des cadres supérieurs en une génération. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité.
Non, jamais.
Donc
jamais.
Ça veut dire que quand on fait une caricature, l'histoire de Fatima est symptomatique. Moi, je suis dans la publicité et je note, ça fait 30 ans que je connais la publicité, qu'il est interdit quasiment de montrer une tête d'arabe sur une affiche. Fatima n'a pas de visage, elle a un nom. Un nom, en plus caricatural, c'est le nom cliché des Arabes, Mohamed Fatima. Fatima n'a pas le droit de montrer sa tête. Hein, parce que l'immigré d'origine maghrébine, africaine, mais surtout maghrébine, n'a pas la parole, il ne doit pas être visible parce qu'on lui accole sur lui que des choses négatives. Et cela, c'est une question de racisme structurel, on peut en parler. Mais pour tout dire, aujourd'hui, ce qui travaille en France le plus, c'est le bâtiment, c'est le secteur le plus dynamique, c'est incroyable, les constructions sont en train de se faire partout.
C'est que des immigrés ?
C'est quasiment que des immigrés. Je vous invite à aller sur les chantiers.
Moi, j'ai vu, c'est que des Africains quasiment.
Ah, non, Africains, Arabes, Portugais, Espagnols, c'est ça.
Oui.
C'est vraiment massif. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de gens.
Ou des travailleurs issus des pays européens qui sont moins forts, des pays de l'Est.
Des Polonais.
Et on les a appelés en 1900 les Polonais pour construire la France, d'accord ? On a rappelé après les Algériens des 50-60, parce que la France, évidemment, fallait la reconstruire après la guerre. Et surtout, on les a rappelés dans les 70 parce qu'on avait besoin de gens dans les usines. Ça, c'est les Marocains massivement. Donc, il faut se rappeler une chose, c'est que ceux qui ont fait tourner l'économie réelle, non pas les salles de marché ou les bureaux, tous les services du tertiaire, non. Vraiment, l'économie réelle, l'économie du secteur secondaire et primaire, ce sont les immigrés.
Eh bien, c'était bien de le rappeler, madame et messieurs, franchement. Je voudrais parler d'un sujet aussi que vous avez vaguement, évidemment, laissé entendre, c'est vrai, puisqu'on est en pleine campagne, c'est celui de l'islam. L'islam qui est une menace pour l'identité de la France. Alors, 60% jugent cela. Je voudrais quand même qu'on
estime.
Regarde. Estime.
Enfin, estime, c'est toute la nuance.
La France est avant tout un peuple de race blanche et de religion chrétienne. Et 64% jugent que l'islam est une menace pour l'identité de la France. Sabrina Nouri.
Eh bien, même propos que tout à l'heure. On est dans une période préélectorale et on avance. Alors, si c'est pas le foulard, c'est l'islam. Si c'est pas l'islam, c'est le musulman. Si c'est pas les musulmans, c'est le prénom. Si c'est pas le prénom, et on avance comme ça et on avance comme ça et on pratique la politique de la peur.
L'identité de la France est en train de disparaître.
Ben évidemment que non. Évidemment que non.
Bon, je la vois pas disparaître.
Alors moi, je vais reprendre les propos de Jean-Luc Mélenchon qui parle de créolisation. Donc là, on est carrément. On est en plein dedans, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a pas d'assimilation, on est dans le vivre ensemble. On est dans le vivre ensemble et on se crée notre propre société. Et on fait corps tous un. Et donc là, moi, je pense qu'on est dedans et stigmatisé systématiquement quand il y a des problèmes dans ce pays et stigmatisé uniquement les musulmans tout le temps.
On est parti un peu pour ça, non ?
Voilà, et donc le résultat, c'est quoi ? C'est que vous avez des territoires où aujourd'hui, il y a...
Sauf qu'en face, on répond quoi ?
donc.
C'est ça là. Bah, en face, les électeurs issus de l'immigration, des quartiers populaires, comme disait Jeannot Excellent.
Eh bien, c'est ce que je dis tout à l'heure.
Il y a un fort taux d'abstention.
Donc,
un fort taux d'abstention, on dit, on peut coder, on peut taper. Personne ne veut de toute façon, on peut taper. Allez-y, allez-y. On vous lynche, mais c'est pas grave.
Et cela s'appelle de l'islamophobie, tout simplement.
Islamophobie, absolument.
Culturelle.
Il me reste quelques minutes. Il faut voter, à 10, c'est très important.
Oui, je le dis tout le temps, Sabrina Nourri. Vous savez, quotidiennement, je ne sais pas si vous écoutez l'émission tous les jours, je le dis en permanence.
Eh ben, c'est très bien.
Vous savez, il y a des réalités.
Gamal Abina et Jeannot Excellent. En quelques minutes, en quelques secondes, j'ai envie de dire, parce que je dois rendre l'antenne dans deux minutes.
Bon, bah, si les spaghettis pouvaient voter, on parlait toujours de bolognaise. En gros, pour expliquer les choses, c'est qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, la question de...
Ça signifie quoi, la petite cloche, en fait?
C'est pour ça que je dis bêtise.
Ah oui, c'est vrai.
Quand on dit des...
Question... Quand vous partez, tu dérapes.
Tu dérapes, d'accord.
Tu sors du cadre et...
La question identitaire française, que c'est...
Ou quand on a du mal à s'écouter parler.
Tu vois, par exemple, il ne m'entend pas.
Voilà. Moi, par exemple, je ne l'ai pas entendu. Donc, j'ai le droit à une clochette.
À la question identitaire française, je réponds simplement que la France, si elle avait une crainte à avoir, et elle a été... C'est réglé depuis 45, a été effectivement dénaturée avec la victoire américaine du côté français en Europe. Quand ils sont avec leur chewing-gum, ils sont avec toute la culture américaine qui a balayé la culture française. Donc, s'ils voulaient s'inquiéter d'une perte d'identité française, ça commence par l'Amérique, d'abord. Ensuite, le peu d'immigrés d'origine africaine et nord-africaine ne pèse rien dans la balance. On n'influence pas la France, malheureusement, très peu. Si ce n'est pour un mot comme le seum, par exemple, ou le couscous.
Oui.
Couscous, bah, je crois qu'on a un appel. Des Français,
j'ai un appel
quand même.
Je crois. Je ne sais pas si vous voulez qu'on décroche.
Oui, décroche.
Non.
Décrochez.
Ah, c'est pour toi, Gamal.
Je sais pas, Yannis, il me précise que.
Je sens venir.
On a droit. Vous voulez qu'on décroche ou pas?
Oui,
allez.
Allô? Non.
Non.
Bon. Le chef de l'État des États-Unis. Ah, Joe Biden.
Joe Biden.
Yeah.
Non. Si. How are you, Joe?
C'est... Hello.
Hi.
How are you?
Ah, Gamal Abina. Ok. Ok, thank you.
C'est un faux gentil, lui.
Ouais. Vas-y, Gamal, continue.
Thanks.
C'est très bien.
Thanks a lot. I don't like you.
T'es sur la bonne voie. Il m'a dit que t'es sur la bonne voie.
I don't like him at all.
Merci, Joe. Hein. Merci.
Oui, ben.
Mais,
Joe. Oui, pardon, ouais, Joe, j'ai entendu Joe, mais j'ai entendu Joe.
Joe,
ben, c'est
Joe.
Joe,
ça l'a perturbé. Ça l'a perturbé.
Oui, pareil, ben, comme tout à l'heure, moi je dis, soyons guidés par la raison et non par les ressentis. Là, il s'agit une fois de plus de ressentis qui contribuent à cette islamophobie qui est galopante, qui est présente aujourd'hui. Le pacte qui nous unit, le pacte qui unit les Françaises et les Français, c'est, on le connaît, les valeurs de la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité, la laïcité. Et rappeler qu'aujourd'hui, l'islam est une religion, comme toutes les religions de France, qui est pratiquée en France et qui ne pose aucun souci. Moi, je suis bien à même en parler dans la mesure où, à Villetaneuse, on a une communauté qui pratique cette religion. Moi, je ne vois pas en cela un problème pour
une
notre société. Il n'y a aucune menace, bien au contraire. C'est un droit, la liberté de conscience, la liberté religieuse, la liberté de croire, de ne pas croire, de pratiquer. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut respecter toutes ces cultures, ces pratiques. Et aujourd'hui, on a intérêt, nous, à être vigilants pour combattre contre cette islamophobie. Le vrai problème en France, moi, comme je dis souvent, comme je l'écris, c'est pas le séparatisme religieux, c'est le séparatisme social. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est la réalité. Malheureusement, on n'en parle quasiment plus. On nous parle toujours du séparatisme religieux, de l'immigration, on l'a vu tout à l'heure, ou d'autres sujets.
Et
la priorité, c'est les Français, c'est le pouvoir d'achat. La problématique, c'est comment loger les gens. Il manque des milliers de logements en France. Ça, c'est un vrai problème.
Avec les
la problématique, c'est l'égalité aux soins. Aujourd'hui, on a des personnes qui ne peuvent pas se faire soigner parce qu'on est dans une crise sanitaire. Donc, c'est ça la réalité. Et moi, je pense que voilà, on doit continuer à lutter.
Ça y est, je suis dans la zone rouge là. Merci, Jeannot Excellent, le maire de la ville de Villetaneuse. Merci, monsieur le maire.
Merci.
Vous reviendrez?
Ah bien sûr. À chaque fois, vous m'invitez, je viendrai. Ben, c'est bon, je suis là.
Vous êtes
bouge plus. Hein,
Sabrina Nourri, ne disparaissez pas. Hein.
Mais non, quand tu veux, tu
vas. J'aime bien. Hein. Gamal Abina, lui,
fait partie des meubles là. Hein, ça y est.
Hein. C'est ça, exactement.
On est à domicile.
Merci à vous. Merci à Yannis à la réalisation. Merci aux auditeurs au 01 53 48 3000. Merci à évidemment aux éditorialistes. À demain avec autant de plaisir. Vous le savez, on ne lâche rien. Portez-vous bien, Bilal Nedman et le Time Sport. C'est de 20h à 21h de tout de suite. Dans 5 minutes.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.